sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous regardons une œuvre, est-ce bien le mot, nous en parlerons, intitulée « Le point de vue du gras », qui serait la première photographie, ou héliographie, qui signifie écriture par le soleil, photographie réussie ou connue de l'histoire de la photographie prise par l'inventeur français Nicéphore Niépce en 1826 dans sa maison de Saint-Loup de Varennes près de Châlons-sur-Saône en Bourgogne. Niépce réalise cette photographie à l'aide d'une chambre noire et d'une plaque d'étain recouverte de bitume de Judée. Elle mesure 14 cm sur 20 cm et elle est conservée en ce moment à l'Université du Texas à Austin. C'est vers 1816 que Nicéphore Niépce entreprend dans sa maison de Saint-Loup de Varennes de multiples recherches sur la photosensibilité des matériaux pour tenter de fixer sur un support l'image du fond d'une chambre noire. Non seulement la fixer, mais aussi dans son désir de la multiplier. Afin d'obtenir des images positives, il s'oriente vers les composés qui se décolorent à la lumière au lieu de noircir. En 1929, vous le savez, il offrira à Daguerre, qui avait eu lui aussi l'idée de capter les images de la chambre obscure, de former une association pour contribuer au développement de l'invention de l'héliographie. Ce contrat d'association, signé en 1829, Daguerre s'attachera à travailler sur ce procédé et il apportera effectivement une contribution importante puisque les deux hommes inventeront en 1832 le physototype. Après la mort de Niépce, Daguerre poursuivra seul les recherches sur la capture des images et inventera le daguerréotype, procédé photographique dont la pratique devenait plus aisée, puisque le temps de pose n'était plus que de quelques minutes. Le daguerréotype connaîtra un immense engouement et Daguerre connaîtra la célébrité dans le monde entier, célébrité peut-être légèrement volée à Niépce. Nous en reparlerons. Écoutons pour l'instant un texte d'Helmut Gernsheim, qui a été l'inventeur de cette œuvre de Niépce, qui avait été égaré et retrouvé en 1952 par lui.
Il y a plus de 150 ans, Joseph Nicéphore Niépce obtenait une image à la chambre obscure sur une plaque d'étain poli, sensibilisée au bitume de Judée. Cette substance possède la propriété exceptionnelle de durcir à la lumière, et non de noircir comme les sels d'argent. Il fallait à Niépce 8 à 10 heures d'exposition au soleil. Il donna à son invention le nom d'héliographie. La vue de 16 cm sur 20 qui représente la cour de sa maison de campagne, domaine du Gras, dans le village de Saint-Loup de Varennes, a été prise de la fenêtre d'un des étages supérieurs. Niépce avait effectué la même prise de vue 2 ans plus tôt sur pierre lithographique, mais ce premier essai avait produit une image à peine visible, ainsi que nous l'apprend une lettre à son frère Claude du 16 septembre 1824. Je devais redécouvrir en février 1952 ces 3 documents essentiels, qui prouvent sans le moindre doute que l'invention de la photographie est due à Niépce, 11 ans avant le premier daguerréotype, 9 ans avant les premiers essais à la chambre noire de William Henry Fox Talbot. Jusque-là, l'année 1839 avait été arbitrairement considérée comme la date de naissance de la photographie à cause de la publication des procédés de Daguerre et de Talbot. L'année 1826 allait par la suite être reconnue comme celle de l'origine. Helmut Gernsheim, la première photographie au monde. Études photographiques, 1997.
Pour parler de cette pierre fondatrice de l'histoire de la photographie, je reçois aujourd'hui le très grand artiste Dov Alouche, un des artistes les plus extraordinaires, travaillant avec passion ces procédés chimiques que l'archéologie de la photographie nous apprend, mais y recherchant probablement quelque chose de très différent de simplement une image. Comme une poésie disparue qui n'aurait pas été explorée totalement par les premiers procédés et les arpenteurs de ces premiers procédés, et dont il essaierait de trouver une puissance à nous transmettre encore aujourd'hui. Au fond, Dov Alouche, j'ai l'impression que dans votre démarche, Vous cherchez quelque chose qui ressemble à une photographie qui serait, ou en tout cas à une puissance qui serait plus celle de l'objet que celle de l'image.
Alors, plus celle de l'objet, oui, mais je cherche en fait à appliquer des principes sur des systèmes pour lesquels ils n'étaient pas définis en fait. C'est ça donc le travail que je de correspondance sur lequel je suis en fait entre des méthodes d'apparition de l'image et des sujets en fait. C'est toujours lié au sujet. Et l'objet en fait oui, l'objet m'intéresse en tant que soi puisque je ne sais pas, en fait, par avance, vers quoi je me destine. C'est-à-dire que tout le travail de recherche, en fait, se fait un peu à l'aveugle, dans le sens où j'ai aucune idée du résultat que ça va produire, en fait. C'est probablement, en fait, aussi pour ça que je suis très admiratif du travail de Niepce, en fait, qui lui-même travaillait comme défricheur un peu de tous ces procédés qu'il a inventés et ne savant pas lui-même aussi vers quel résultat en fait il irait. Donc en fait,
mais c'est votre regard, vous savez, sur Niepce qui m'a poussé à faire cette émission, parce que vous m'en avez parlé avec une passion extraordinaire, comme d'un inventeur très stupéfiant et qui effectivement, quand vous en parliez, il y avait la sensation presque de l'apparition stupéfaite des images qu'il allait faire apparaître. Alors, pour nous soutenir dans notre conversation, j'ai la chance de recevoir aussi Michel Poivert. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes un historien de la photographie très connu, un commissaire d'exposition également. Vous avez présidé pendant près de 15 ans, je crois, la Société française de photographie, n'est-ce pas ?
Absolument.
Voilà, vous avez écrit de très nombreux livres. Je me souviens du pictorialisme en France, ça c'était en 92, mais vous continuez à écrire beaucoup en ce moment. Je crois qu'il y a un livre qui est quasiment sous presse chez Azan, qui va sortir bientôt.
Oui, une brève histoire de la photographie avec un regard personnel sur l'histoire de la photographie.
Vous participez à l'organisation d'expositions, je pense à la Subversion des images, surréaliste, photographie et film, qui était présentée au Centre Pompidou en 2009. Et nous allons parler de Niepce, pour lequel vous avez pas une affection particulière, mais une connaissance, un intérêt de professeur, j'imagine, en tout cas.
Bah, ce qui est amusant quand on enseigne l'histoire de la photographie, c'est qu'on commence par cette fameuse image. Comme d'ailleurs la
plupart. Vous voulez dire qu'on commence par le début ?
Oui, on commence par le début. C'est peut-être pas aussi logique qu'on pourrait l'imaginer, parce que c'est une image, on en dira un mot, puis on a entendu le texte de Gernsheim, c'est une image qu'on connaît depuis, je veux dire, 70 ans à peine, alors qu'elle est datée de 1826-27. Mais ça, c'est intéressant, parce que elle n'est pas la seule des premières images à avoir été faite, à avoir été vue un siècle plus tard. C'est le cas du noyer de Bayard, qui a été vu pour la première fois, ou publié pour la première fois en 1942, alors qu'elle est de 1840.
Donc, qu'est-ce qu'elle représente ? Alors, dites-nous, le noyer de Bayard.
Alors, c'est cet inventeur de la photographie positive sur papier, hein, pas tout à fait la même chose que ce qu'on va évoquer tout à l'heure avec Niepce, qui, lui, s'est mis en scène comme un noyer, témoignant ainsi, avec un texte inscrit au revers, de sa tristesse, de sa désapprobation à l'égard du succès rencontré par Daguerre et célébré par la fameuse loi Daguerre.
Parce qu'il y a beaucoup de luttes dans ce moment d'invention, parce que tout le monde est un peu rival de l'autre.
C'est une histoire polémique.
Et la recherche est menée par les uns et par les autres extrêmement près. Alors, je voudrais que, pour décrire un petit peu ce dont nous allons parler à nos auditeurs, leur dire que si vous avez entendu déjà sur Internet, par exemple, le premier enregistrement d'une voix sur cylindre de cire chantant en 1860 au clair de la lune, par exemple, vous pouvez l'entendre sur Internet, ou si vous avez entendu la voix d'Apollinaire disant le pont Mirabeau, vous avez une sensation pas si différente de celle que procure la contemplation de la pierre fondatrice de la photographie, le point de vue du gras. On l'appelle comme ça, il l'appelait comme ça, j'imagine déjà. Cette image que tu saisir est surtout fixée, Nicéphore Niepce, depuis la fenêtre du premier étage de sa propriété bourguignonne à Saint-Loup-de-Varennes, près de Chalon-sur-Saône. Quelque chose d'infiniment fragile et d'extrêmement précieux émane de ce curieux objet dont l'existence physique est plus intense et plus bizarre qu'une simple image. C'est une plaque d'étain qui est enchâssée aujourd'hui dans un lourd cadre doré et présentée sous verre, maintenue, incorruptible, embaumée en quelque sorte, dans un gaz d'hélium. Si vous observez la plaque, malgré la luminosité très basse de la salle où elle est maintenue, vous vous apercevez qu'elle a été soulevée, cabossée en plusieurs points, et quelques zones de l'image ont disparu comme si le bitume avait été exagérément frotté. En observant bien, vous recomposez la vue, deux verticales de part et d'autre, et un plan incliné, une diagonale qui barre la composition. Voici de quoi il me semble qu'il s'agit. Les vantaux d'une fenêtre, assez lisible, surtout le côté gauche. Une tour à deux ouvertures, un peu plus loin, sur la gauche toujours. Un toit incliné de face et à droite, un mur haut. Au loin, une tache sombre, trouée par la lumière dans sa partie haute, est peut-être un arbre, mais je n'en suis pas sûr. Voir cette image, c'est assister à une lutte entre la lumière et l'obscur. C'est l'apparition si fragile d'un moment lumineux qui peut-être obligea le premier photographe à une pause de plusieurs heures et sans doute de plusieurs jours. C'est aussi un miracle que sur cette plaque si douce aient été maintenus les rayons lumineux pour la première fois, et notre œil qui s'évertue à interpréter des suggestions que l'image a pu conserver, notre œil donc, se frayant à son tour un chemin parmi les indices laissés par la lumière, s'émerveille, comme dut le faire Niepce, de cette extraordinaire apparition de l'apparence. Donc un paysage assez cubiste avant le cubisme, obtenu par l'éternelle vision de la fenêtre qui, d'Alberti à la fenêtre à collure de Matisse ou au tableau de Magritte, a été si importante pour l'histoire de l'art. Enfin, la première photo, un paysage, une héliogravure, gravée donc par le soleil.
Impatient de contempler le trésor de mes propres yeux, car je savais qu'une image au bitume ne pouvait s'effacer, je téléphonais pour savoir quand je pourrais lui rendre visite. Une dame de compagnie me répondit que Mrs. Pritchard avait pris froid et était alitée, mais qu'elle m'écrirait dès qu'elle irait mieux. Un mois s'écoula. Enfin, arriva ce jour que je n'oublierai jamais, le 14 février 1952. Mrs. Pritchard se leva et me tendit un joli miroir, serti dans un grand cadre doré, en disant « Voilà ». Vous allez être déçu, mais je vous avais prévenu, il n'y a plus rien sur l'image. Je fus déconcerté. Je ne m'étais pas attendu à un miroir, pas plus qu'au cadre en pierre enserrant la plaque comme s'il s'était agi d'un tableau. J'allai à la fenêtre, en cherchant le bon angle avec la lumière, ainsi qu'on le fait avec les daguerréotypes. On ne voyait pas d'image. J'augmentai l'inclinaison, et d'un coup, toute la vue de la cour se dévoila à mes yeux. Les dames étaient interdites. Leur faisais-je un tour de magie noire? Puis je retournai la plaque et lus l'inscription rédigée par Francis Bauer, en français et en anglais, « Les premiers résultats obtenus spontanément par l'action de la lumière » par M. Niepce de Chalon-sur-Saône, 1827. Helmut Gernsheim, « La première photographie au monde » Études photographiques, 1997.
Donc nous venons d'entendre le texte d'Helmut Gernsheim, qui est un texte extraordinaire. On a l'impression d'être dans un thriller, la suite de la découverte, au fond, de cette première photographie, alors qu'il a retrouvé sa trace chez cette fameuse Mrs. Pritchard à Londres, et ceci a changé, au fond, l'attribution de l'invention de la photographie de Valouche, n'est-ce pas?
Oui, alors, tout à fait. Cette plaque, il la retrouve après une très longue enquête, qui durera à peu près 5 ou 6 ans, et durant lesquels il est à Londres, il retrouve les traces de cette plaque qu'il va conserver une quinzaine d'années avant de la donner à son tour au musée d'Austin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il retrouve la plaque, il est le premier donc à la découvrir. La France ensuite la découvre à son tour, seulement en 52, donc plus de 50 ans après qu'elle ait été réalisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sait pas en fait ce qu'il a face à lui, puisque on est encore dans une confusion un peu des procédés. On pense que tous ces procédés finalement imaginés par Niepce avant Daguerre sont une déclinaison du procédé de Daguerre lui-même. Donc c'est que des procédés qui fonctionnent par variation de solubilité des substances, pas du tout comme le daguerréotype. Donc il sait pas trop ce qu'il a, il sait que c'est du bitume de Judée, il comprend que le support est un support brillant, il dira comme du miroir. Donc on sait pas si c'est de l'argent ou de l'étain au début. Donc il y a vraiment un mystère en fait. Il a peu de doutes sur l'auteur et l'origine de la photographie, mais il y a encore tout un ensemble de questions qui se posent et qu'on se pose en fait sur la nature de l'image elle-même. En fait.
C'est une œuvre ou c'est une expérimentation cette vue du point de vue du gras.
Alors c'est une œuvre à bien des titres déjà. Pour revenir sur le titre lui-même, en fait, Niepce passait d'une chambre à l'autre, de la sienne à celle de son frère. Et là, pour reprendre la précision d'ailleurs qui avait été apportée par Gernsheim, le point de vue qu'on connaît, le célèbre point de vue, en fait, donne sur la basse-cour. Donc depuis la chambre de Nicéphore, qui était totalement à contre-jour, donc en fait il faisait très peu de prises de vue depuis sa chambre, il allait dans celle de son frère, qui était mieux orientée. Sauf que là, cette première image qui est si connue aujourd'hui, en fait elle est faite depuis sa chambre et elle donne sur la basse-cour. Donc ce serait plus juste de dire le point de vue sur la basse-cour. Et ce qui m'a fasciné en fait chez Niepce, c'est ce qui me fascine encore, c'est justement cette approche, cette ingéniosité qu'il a à utiliser finalement des matériaux, à déplacer des matériaux comme le ferait aujourd'hui un artiste en fait, hein, et à les utiliser des matériaux qui sont très loin de la photographie, puisque le bitume de Judée, a priori, même s'il est connu depuis l'Antiquité, en fait, l'intuition de l'utiliser comme matériau photosensible, enfin. Tout ça à une époque où la chimie est encore une science naissante. Donc là, moi, ce qui me rapproche de Niepce, c'est cette perspicacité qu'il a à réaliser des expériences et à les arrêter dans un temps très court quand il pressent qu'elles vont le conduire vers une impasse, à toujours avoir des idées nouvelles et aller vers des résultats dont il ignore encore, alors même que... Il n'a pas du tout d'idées préconçues sur ce vers quoi il a envie d'aller. Donc c'est tout un tas de choses et c'est ces histoires de déplacement. C'est ça qui me fascine le plus. Comment, à partir de matériaux qu'il avait utilisés avec son frère pour un moteur à combustion, c'est ça quand même, le bitume de Judée, au départ, c'était un combustible, c'est un matériau fossile.
Ça, j'ai bien compris. Alors, je souriais et les auditeurs ne pouvaient pas le voir parce que je voyais Michel Poivert, quand on posait la question de « est-ce une œuvre ?» se poser, vous étiez intrigué. Vous répondriez à cette question.
J'ai eu très très peur, vous mettiez d'art derrière. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre technique, absolument. Il y a œuvre, il y a même chef-d'œuvre au niveau technique. La question de l'art, pour moi, est très 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 loin de ces questions-là. Même d'un point de vue culturaliste, je pense qu'il ne se pose pas le problème de l'art. C'est la question de l'invention de l'image, oui. Mais alors moi, j'aurais
pourtant une image assez composée, non ? Ou pas ?
Oui, mais je dirais qu'elle est composée à partir du moment où c'est une image faite à la chambre. Ce qui est un exercice très particulier dans l'invention de Niepce, c'est une des facettes de sa recherche chimique. Le fait de mettre cette image sensibilisée au fond d'une chambre noire n'est que l'opération parallèle de l'autre qui est, à mon avis, beaucoup plus lucratif pour lui, parce que c'est quelqu'un qui passe des brevets, c'est un inventeur technique qui cherche à faire fortune comme tous les inventeurs de son époque. Il n'a pas une formation d'artiste, à la différence de Daguerre. L'autre invention qui est parallèle avec la substance photosensible, c'est la reproductibilité. C'est-à-dire qu'il va prendre une gravure, il la rend transparente avec du vernis, il la pose comme un négatif sur une pierre lithographique recouverte de bitume, et là, il essaye de faire une reproduction, et il y arrive.
La première image qu'il a fait du point de vue du gras, si je puis dire, la même image que celle qu'on est en train d'examiner, était sur une pierre lithographique.
Il y a la pierre, et puis ensuite le métal qui va avoir cette brillance qui permet, on l'évoquait, de regarder cette image. Mais ce que je veux dire, c'est que le caractère empirique, l'intuition, ce qui rapproche pour moi fondamentalement l'artiste et le savant, là on va être d'accord, hein, participe du résultat obtenu par Niepce. Mais on est bien dans un processus qui vise un résultat avec l'idée de la passation de brevet. Hein, je crois qu'il ne faut pas oublier cette dimension. L'inventeur cherche la fortune, au sens presque de la reconnaissance de la gloire. Il veut l'invention qui va bouleverser la culture de son époque. La question ensuite de l'appréciation esthétique, elle est géniale à partir de Gernsheim, qui va faire une lecture du génie technique et ensuite de mettre cette image dans l'histoire des images et dans l'histoire du goût.
Alors peut-être on va écouter, pour être dans cette question de l'invention, la notice sur l'héliogravure, écrite par Niepce à Chalon-sur-Saône en 1829.
Notice sur l'héliographie. La découverte que j'ai faite et que je désigne sous le nom d'héliographie consiste à reproduire spontanément, par l'action de la lumière, avec les dégradations de teintes du noir au blanc, les images reçues dans la chambre obscure. Principe fondamental de cette découverte. La lumière, dans son état de composition et de décomposition, agit chimiquement sur les corps. Elle est absorbée, elle se combine avec eux et leur communique de nouvelles propriétés. Ainsi, elle augmente la consistance naturelle de quelques-uns de ces corps, elle les solidifie même et les rend plus ou moins insolubles suivant la durée ou l'intensité de son action. Tel est, en peu de mots, le principe de la découverte. Notice sur l'héliographie par M. Joseph Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, 1829.
Avant lui, 30 ans avant lui, le physicien français Charles, qui est également l'inventeur, au passage, du ballon à hydrogène, avait déjà obtenu des silhouettes sur des papiers au chlorure d'argent. La grande invention de Niépce, son trait de génie, c'est d'avoir associé le procédé chimique de substances sensibles à la lumière, tout particulièrement de substances argentées, et puis le principe optique de la chambre obscure.
Donc on entendait la voix d'Alain Frère-Jean interviewé dans une émission 2000 ans d'histoire en l'an 2000. Voilà. On est dans un moment, Michel Poivert, lorsque nous sommes en train de considérer évidemment cette première photographie de Niépce, on est dans un moment où la lithographie elle-même a été inventée très peu de temps avant, au fond une cinquantaine d'années auparavant. L'obsession de reproduire, de la reproduction technique, semble être quelque chose qui intéresse Niépce, pas seulement saisir l'image, mais aussi pouvoir la reproduire.
Oui, je crois qu'on est dans un processus de mécanisation du dessin, de modernisation de l'image, et donc du multiple. Et cette pensée du multiple, on l'oublie parfois quand on considère le point de vue de la fenêtre, parce que je crois qu'on a une projection ou une rétro-projection de l'œuvre qui tend à penser, parce que c'est un incunable, comme quelque chose d'unique. Alors que d'abord, comme on l'a rappelé tout à l'heure, on est dans des processus empiriques, des essais, des transformations, des déplacements de matériaux, des tentatives. Mais il y a vraiment cette idée. Et la mécanisation du dessin, qui, par l'héliographie et l'héliogravure, parallèlement, va être une des composantes de la diffusion, de la démocratisation des images, part de là. Je veux dire par là qu'il y a une pensée profondément moderne chez Niépce, qui va être prolongée par tous ceux qui vont travailler à partir de ses travaux, qui vont les multiplier, ou alors en Angleterre, puisqu'il se situe aussi en Angleterre au moment où il présente cette plaque, chez Talbot, qui lui, à la différence du procédé de Niépce, va penser positif, négatif et multiple en même temps. Alors que notre fameux point de vue, et c'est son caractère aussi assez fabuleux, c'est une image qui est à la fois négative dans sa production originale et positive dans sa lecture, puisqu'il suffit de faire miroiter, si je puis dire, sur ce support une lumière rasante, et les ombres deviennent, le noir devient blanc, si je puis dire, les ombres s'inversent, et c'est une image qui n'a pas besoin de cette question du positif-négatif, elle les contient. Ce qui sera vrai aussi du daguerreotype, d'une certaine manière.
Dovalouche, vous êtes dans votre intérêt comme ça pour Daguerre. C'est son aspect chimiste expérimental qui vous intéresse à ce moment-là. Comment est-ce que ça peut parler à un artiste aujourd'hui, cette œuvre?
Alors oui, d'une part, la dimension expérimentale, l'obsession autour de son idée, en fait, qu'il lâchera pas, hein, de fixer, de stabiliser les images et de les obtenir en positif. Donc moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est toujours comment, autour d'une même idée, déployer un ensemble, à la fois, bon, je parle en mon nom, un ensemble de sujets et de mécanismes autour de ces sujets pour produire des images qui soient finalement, échappe à tout processus de fabrication. À la fin, c'est des images qui sont totalement hybrides dans leur mode de fabrication. Je pense par exemple à un travail que j'ai fait assez récemment, où justement je me suis intéressé à un autre procédé qui avait été imaginé et inventé par Niépce, c'était le physototype. Et où là, il a l'idée géniale, en fait, que justement l'essence de lavande, qu'il connaissait bien par ailleurs, en fait, puisqu'il l'avait utilisé comme solvant avec le bitume de Judée, il savait que cette essence, cette huile essentielle de lavande, après une succession de transformations, avait la capacité de réfléchir à la lumière, et il y a toute un mode opératoire pour faire apparaître l'image qui, elle, est latente. Et moi, ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'était justement comment il avait imaginé la fabrication d'une image à partir d'échanges gazeux. Finalement, c'était ça, hein. Et en face de cette invention, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un sujet qui fasse sens. Et je me suis intéressé aux granulations solaires, qui elles-mêmes, en fait...
Dont vous avez fait une série d'œuvres à partir de l'Atlas de Janssen, des taches solaires de 1903.
Voilà, mais donc les granulations, on sait que c'est elles qui produisent le rayonnement solaire. Mais en même temps, elles se déplacent dans un mélange gazeux aussi. Donc en fait, c'était cette double coïncidence, et presque dans l'idée de travailler sur une idée de métaphotographie, hein, entre la lavande et ces échanges gazeux dont je parlais. Donc voilà, si vous voulez, ce qui me fascine, c'est pas tant les procédés anciens, c'est pas quelque chose qui se décline à l'infini dans mon travail, c'est plutôt à chaque fois chercher des correspondances qui font sens entre le sujet et, encore une fois, le...
Alors, j'aimerais bien, puisqu'on parle de, on est dans cette chimie, j'aimerais bien, Michel Poivert, que vous, si vous le pouvez, que vous nous décriviez un petit peu quel est le champ de recherche à ce moment-là. On est en 1825, il commence vers 1816, on peut dire que vers 1835-40, la photographie est inventée, quasiment stabilisée dans ses intentions, en tout cas. Qui a cherché? Parce qu'il y a des luttes, Daguerre, Talbot, il y a des ancêtres.
Il y a des conflits d'intérêts, si je veux dire.
Il y a des chimistes, des opticiens, il y a tout un... C'est quoi le paysage de la découverte à ce moment-là?
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous citez opticien, on pourrait presque dire ébéniste pour ceux qui fabriquent les chambres noires. On pourrait parler effectivement de la chimie, de la physique fondamentale. Souvent, les historiens des débuts de la photographie ont cette idée de parler de la convergence. On parle des fois de la convergence des luttes, là c'est la convergence des inventions. Et c'est vrai qu'il y a, à un moment donné, une sorte de point de fusion historique où une solution devient possible. Alors, il y a l'intuition de Niepce, il y a celle de Daguerre, il y a celle de Talbot, il y a celle de Bayard, et encore d'autres. Mais moi, j'ai souvent l'habitude de dire, mais finalement, la solution, elle est politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un pays, il y a une force politique qui s'appelle la France et qui est tenue par Arago, qui est un jeune et brillant scientifique, mais pas si brillant que ça, qui est surtout un élu républicain, qui dit, en fait, ce type-là, il parle de Daguerre avec l'héritage de Niepce, et on est en pleine polémique qui de Daguerre et Niepce en 1837-39.
Vous parlez de la déclaration d'Arago,
oui,
à l'Académie des sciences.
Oui, mais c'est très important pour Niepce, parce que à ce moment-là, c'est l'homme politique et savant Arago qui dit « mais cette invention relie l'homme et la machine ». Et on est en pleine philosophie saint-simonienne à ce moment-là. Il faut réconcilier l'homme et la machine. En pleine révolution industrielle, il pointe du doigt l'invention de Daguerre, il voit ce qu'a fait Niepce et dit « il faut en faire une loi ». Il faut la donner au monde. Et à ce moment-là, la photographie, elle existe. Avant, effectivement, c'est extrêmement hétérogène. C'est des luttes d'intérêts pour dire « c'est moi le premier, j'ai passé un brevet, j'ai pas passé de brevet ». Tout ça est très intéressant d'un point de vue de l'archéologie des techniques, mais du point de vue de l'histoire des idées, c'est le moment où la politique s'en mêle, si je puis dire. Ça, c'est passionnant. Et qu'est-ce qui va se passer pour notre pauvre Niepce, puisqu'il y a ceux qui disent le pauvre Niepce, d'autres qui disent le méchant Daguerre. C'est toujours un peu ridicule, mais bon, l'historiographie est faite, c'est polémique. Eh bien, c'est finalement le choix de Daguerre contre Niepce. On va dire c'est Daguerre qui devient l'homme élu du peuple qui va donner. On va quand même voter une pension pour le fils de Niepce, oui, il ne sera pas oublié, mais néanmoins, il en faut qu'un, c'est déjà le ranking des inventions, il en faut qu'un, il faut l'homme providentiel, celui qui fait se serrer la main entre la machine et l'âme humaine, c'est Daguerre, le Prométhée chrétien, et Niepce, il appartient à cette histoire qui le fait un peu s'effacer, mais contrairement à ce qu'on croit, très peu de temps, puisque la première avant-garde de la photographie, c'est le papier, parce que là, on parle de substances métalliques sur le métal, c'est le papier, et ça va être la naissance de la revue La Lumière, la société héliographique avec Delacroix, avec toutes ces personnalités-là. Et là, dans le magazine La Lumière, Ernest Lacan, qui va diriger cette revue, va dire « mais Daguerre, c'est bien, mais Niepce, c'est mieux, parce que l'avenir, c'est le papier, c'est la reproductibilité, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le positif, c'est le négatif. On va piquer l'idée de l'anglais Talbot, on va la franciser, si je puis dire. Et du coup, Niepce va être le père fondateur, et on va faire repasser l'effigie de Niepce devant celle de Daguerre, et l'avant-garde du papier, ça sera Niepce. Donc c'est une histoire très polémique sur 15 ans, qui est absolument passionnante, mais qui est très politique, curieusement, et pas simplement technique.
Il y a une autre photo de Niepce dont on parle toujours, qui est cette fameuse nature morte à la table. C'est une photo apocryphe, réelle, elle est bien de lui. Qu'est-ce que vous en savez, Dovalouche?
Alors, donc la table servie, donc une nature morte,
oui.
Il y a toute une polémique autour de cette photo aussi qui va être... donné par le petit-fils de Niepce à la Société française de photographie vers 1890. Donc, jusque-là, on ignorait en fait son existence. Hein. C'est probablement une des dernières images qui a été faite par Niepce. On sait, en fait, ce qui est établi, c'est que l'image a été faite sur verre. Et au regard du sujet, on a longtemps pensé qu'elle provenait de Daguerre, simplement parce que Daguerre était plus accoutumier en fait des natures mortes que Niepce lui-même. Sauf que la maladresse de la composition et le sujet lui-même, qui est un peu un sujet campagnard, hein, font penser en fait que l'image est bien de Niepce, l'optique employée, etc. Il y a tout un ensemble d'éléments en fait.
D'indices en fait.
Ouais. D'indices qui penchent davantage sur Niepce. L'image a été détruite, donc on n'en sait rien, elle n'existe plus. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les deux images.
Comment l'a-t-on alors? Elle a été reproduite?
Il existe qu'une reproduction, en fait.
Qui a été faite à quelle époque?
Qui a été faite par la Société française de la photographie, enfin, en 1905, je ne sais plus.
Qui a reçu cela, mais qui l'a perdu ensuite. Donc,
Oui, c'était une reproduction de Potonnier, qui était le bibliothécaire, ouais. Avait publié dans son Histoire de la photographie, et de fil en aiguille, elle a été reproduite dans toutes les histoires de la photographie, jusqu'à temps qu'on... On découvre finalement le point de vue du grand.
Mais là encore, ce qui est intéressant, et pour reprendre les propos de Michel sur ces histoires de négatif, positif, c'est très difficile de se faire une idée en fait hein, de ce type d'image, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a eu encore toute une polémique et, sur la nature de l'image et son auteur, parce qu'en fait, on pensait que c'était... un daguerréotype, une héliographie. C'est-à-dire qu'on n'expliquait pas d'un point de vue physico-chimique, en fait, la nature de ces images. Il y avait une confusion générale, puisque toutes ces images avaient en commun d'être à la fois positives et négatives.
C'est peut-être le moment, justement, d'écouter une des lettres que rédigea Niepce à l'intention de Daguerre en 1827, où on voit la naissance de leur association et les doutes et la prudence que Niepce a également à l'égard de Daguerre.
Monsieur, vous recevrez presque en même temps que ma lettre une caisse contenant une planche d'étain gravée d'après mes procédés héliographiques et une épreuve de cette même planche très défectueuse et beaucoup trop faible. Vous jugerez par là que j'ai besoin de toute votre indulgence et que si je me suis enfin décidé à vous adresser cet envoi, c'est uniquement pour répondre au désir que vous avez bien voulu me témoigner. Je crois, malgré cela, que ce genre d'application n'est point à dédaigner, puisque j'ai pu, quoique étranger à l'art du dessin et de la gravure, obtenir un pareil résultat. Je vous prie, monsieur, de me dire ce que vous en pensez. Ce résultat n'est même pas récent, il date du printemps passé. Depuis lors, j'ai été détourné de mes recherches par d'autres occupations. Je vais les reprendre aujourd'hui que la campagne est dans tout l'éclat de sa parure et me livrer exclusivement à la copie des points de vue d'après nature. C'est sans doute ce que cet objet peut offrir de plus intéressant. Je pense, monsieur, que vous aurez donné suite à vos premiers essais. Vous étiez en trop beau chemin pour en rester là. Nous nous occupons du même objet. Nous devons trouver un égal intérêt dans la réciprocité de nos efforts pour atteindre le but. J'apprendrai donc avec bien de la satisfaction que la nouvelle expérience que vous avez faite à l'aide de votre chambre noire perfectionnée a eu un succès conforme à votre attente. Dans ce cas, monsieur, et s'il n'y a pas d'indiscrétion de ma part, je serai aussi désireux d'en connaître le résultat que je serai flatté de pouvoir vous offrir celui de mes recherches du même genre qui vont m'occuper. Lettre de Nicéphore Niepce à Louis Daguerre, le 4 juin 1827.
Michel Poivert, on sent dans ce texte quand même une grande méfiance de l'un à l'égard de l'autre. Communiquez-moi les résultats, mais on sent qu'ils ne se communiquent jamais rien. C'est une drôle d'association
On a Daguerre à Paris, le grand artiste de décor, l'inventeur du panorama, du diorama.
On parle toujours du diorama de Daguerre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
C'est un homme qui est formé à la peinture de décors d'opéra, qui va monter un grand atelier et qui va inventer effectivement ces grandes structures peintes rétro-éclairées, qui par la variation des immenses châssis permet à un public d'observer le passage de la nuit au jour de grands paysages. Et donc c'est un homme de spectacle, mais par contre c'est un homme d'effet, qui cherche l'esthétique des effets. Alors que Niepce, cet inventeur, lui, il n'est pas du tout dans le spectacle. Par contre, il est dans la tentative de solution d'obtenir un effet, j'allais dire définitif, pour obtenir une image. C'est une drôle d'association, et je pense que ça a été souvent décrit, et il y a cette fameuse correspondance qui est quand même une correspondance codée, comme des secrets d'espions. Donc on sait bien qu'il y a des enjeux financiers. Ils ont compris qu'il y a un vrai enjeu.
Je sais que son frère et lui codaient le nom de chacune des substances quand ils se les communiquent, quand ils voulaient se parler pour que personne ne sache de quelle substance il s'agissait. C'est exact, n'est-ce pas?
Oui, absolument. La correspondance était donc codée, comme disait Michel Poivert, et elle a été décodée en fait très récemment par Jean-Louis Marinier, à qui il faut rendre hommage, hein, qui est l'auteur d'un livre sur Niepce qui est absolument prodigieux. Alors, elle était codée, et d'ailleurs, le fils de Niepce lui-même, en fait, attendra un long moment après la mort de son père pour avoir le décodage de la correspondance. En fait, il y avait une vraie volonté de Daguerre aussi à transmettre des informations au compte-goutte au fils. Le fils, d'ailleurs, qui, après le décès de son père, ne pourra jamais reproduire tous les procédés inventés par Niepce seul ou l'association Daguerre-Niepce. Et du coup, voilà, donc en fait, c'est un...
Oui, parce Michel Poivert.
Ils aboutissent, effectivement, alors il y a cette correspondance, il y a ce physototype sur lequel ils travaillent ensemble, qui est finalement ce maillon...
Que c'est le physototype alors,
C'est l'arrivée, si je puis dire, c'est l'intervention de l'essence de lavande et d'un support métallique, et puis les essais que Jean-Louis Marinier le raconte bien, il appelle ça l'incompréhension, le malentendu autour de l'iode. C'est étrange. Mais en fait, Niepce, selon Marinier, découvre les potentialités des vapeurs d'iode sur l'argent. Parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que le grand décalage, c'est que Niepce travaille sur des substances qui ne sont pas des substances argentiques, alors que, habituellement, on dit, voilà, l'histoire de la photographie, c'est l'invention de la photosensibilité des sels d'argent, ce qu'apporte effectivement le daguerreotype. Mais entre les deux, Niepce a cette intuition de se servir des vapeurs d'iode pour sensibiliser à l'argent, pour sursensibiliser l'argent.
Mais Davalouche.
Là, c'est intéressant parce qu'en fait, juste après le célèbre point de vue, il décide en effet, et toujours dans cette idée de produire une image positive, de faire des expériences sur du plaqué argent. Donc là, c'est toujours le même procédé au bitume de Judée, sauf qu'en effet, les cristaux de diode vont se sublimer et attaquer l'argent et produire de l'iodure d'argent. Et en fait, il découvre, bien avant Daguerre d'ailleurs, et bien avant Talbot ou d'autres, hein, puisqu'il commence en fait des expériences à l'iodure d'argent dès 1916. Hein,
1816.
1816, pardon. Et en fait, il découvre donc que cette iodure d'argent a la propriété de noircir en fait sous l'action de lumière. Et donc,
par accident, il le découvre.
Il le découvre suite
tâtonnement,
par tâtonnement. Oui, voilà. Et donc, très vite, en fait, il pousse les recherches vers le plaqué argent. Et c'est comme ça, en fait, que commence l'association Daguerre-Niepce, hein, parce qu'en fait, il décide toujours dans cette volonté de réduire le temps de pose, puisque c'est ça, en fait, hein, la vraie question, c'est de proposer un procédé qui permettra de faire des portraits aussi.
Et oui, alors il y a deux obsessions qui sont pas d'ailleurs
Michel
toujours
Poivert.
Conjuguées. C'est très intéressant, c'est que il y a l'obsession de ce que Daguerre appelle la promptitude. Il faut aller plus vite. Des heures, c'est pas possible. Une heure, c'est pas possible. Quelques minutes, c'est trop. Il faut arriver à la promptitude pour faire quoi? Comme le dit Love, pour faire le portrait. Parce que l'enjeu, le business, il est là. Il faut arriver à tirer le portrait en quelques secondes. Et donc, il y a la promptitude. Et puis, mais ça, c'est vrai, vraiment un point de vue, je dirais, nipséen au début. Alors que l'obsession du daguerreotype de Daguerre, c'est une question d'optique, c'est la précision. Ce qu'il appelle l'exactitude. Donc il y a la promptitude, vite, et l'exactitude, la précision. Et conjuguer les deux, ça a été ces deux esprits. Sinon, on n'y arrivait pas.
Et alors, sachant que Daguerre, c'est plutôt l'exemplaire unique et Niépce, plutôt la reproduction, c'est aussi une différence. Alors, néanmoins, je voulais vous poser une question à l'un comme à l'autre. Cette fameuse œuvre que nous observons, Le point de vue du gras, c'est une. Quand vous dites une œuvre scientifique ou technique, que peut-être vous considérez de Valouche plutôt comme une œuvre artistique, je ne sais pas si vous faites une différence. Néanmoins, elle a été encadrée avec ce grand cadre doré dans lequel on peut la voir encore aujourd'hui. Est-ce que le fait de la mettre dans un cadre doré, peut-être ça a été fait par Niépce, je ne sais pas si vous le savez, est-ce que ça signifie qu'il la considérait comme une peinture, comme une œuvre, comme une peinture de la nature, de Valouche ?
C'est difficile de répondre. Clairement, à cette question, il a en effet encadré son œuvre, probablement dans l'idée de l'offrir. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. C'était lors de son voyage en Angleterre, il l'offre. Il l'offre à.
Oui, parce qu'il est allé en Angleterre essayer de vendre son invention, la présenter à la Royal Academy.
À la Royal Society. Il décide de présenter son invention aux membres de la Royal Society. Et il est introduit par un intermédiaire qui s'appelle Bauer, à qui il va offrir. 4 héliographies, dont le célèbre point de vue.
Donc, qui d'ailleurs sera gardé, et c'est dans la famille qu'on va retrouver, le retrouver 100 ans plus tard.
Presque. Exactement. Ouais. Donc en fait, il y a eu quelques
reventes entre temps.
Quelques reventes.
Mais pour quelques shillings, pour quelques livres.
C'est ça.
Oui, probablement.
Et, donc, on peut penser, on pourrait imaginer en fait que l'œuvre ait été encadrée aussi dans cette idée de l'offrir. Probablement pas pour des histoires de conservation, parce que Niépce savait bien que le bitume de Judée fixé sur la plaque d'étain avait toutes ses propriétés de composants fossiles. Donc en fait, ça n'avait pas du tout la fragilité d'un physototype ou d'un daguerréotype. C'est des œuvres assez pérennes. Hein. On peut imaginer en fait que c'était dans l'idée de ce cadeau.
Oui, je crois que le cadre, c'est l'hommage. Alors, nous, un cadre doré, ça nous parle effectivement comme un écrin plutôt lié à une représentation artistique. Mais je crois encore une fois que l'hommage, le cadre doré de l'hommage, entoure en tout cas quelque chose qui est célébré et a célébré par son auteur. Mais je crois que la question, c'est surtout pour moi celle de l'incunable. Je trouve ça formidable qu'on arrive à préserver encore un essai comme celui-là, un essai concluant dont finalement la matière nous parle aujourd'hui, parce que c'est extrêmement troublant quand même de pouvoir voir ce que les premiers inventeurs ont réussi à obtenir. Et pour moi, si on veut quand même parler d'esthétique, parce que je crois que c'est un vrai enjeu autour d'une image aussi fétichisée que celle-ci, moi, j'ai tendance à dire que c'est la première photographie expérimentale, parce que je pense que le peu que j'ai vu des travaux de Dove, c'est comme il y a du cinéma expérimental, il y a de la photographie expérimentale. C'est-à-dire quelque chose qui, dans son propre process, contient une poétique, et non pas dans simplement son iconographie. Et là, pour moi, ça serait la tête de série, dirait l'archéologue.
C'est ça, votre point de vue est très important, parce que au fond, l'émotion que nous communique cela, c'est évidemment la sensation d'avoir affaire à une première chose fixée presque par miracle après un long 10 ans de travail, puisqu'il a commencé en 1816, c'est en 1826 qu'il fait cette photo. Et en même temps, il y a une fragilité telle dans l'apparition de cette apparence, dans le peu de matière qui va fixer ce moment. Est-ce que vous pourriez décrire, Dove par exemple, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui reste ?
Alors,
il y a déjà.
C'est une image qui est particulièrement diaphane, hein, puisque cette première image faite par Niépce, en fait, pour cette première image, il a utilisé donc un vernis au bitume qui était d'une extrême finesse. On a sur l'œuvre originale des nuances, des teintes, un rendu très subtil, avec des zones d'alternance entre la couleur vermeille du bitume et le dépoli, le poli plutôt, de l'étain, la brillance de l'étain. Et moi, ce qui me fascine, encore une fois, c'est cette capacité sans arrêt d'inverser les valeurs, en fait, sur ce type d'image, puisque l'image, elle existe grâce à la réflexion des ombres aussi. Et donc, c'est ça qui la rend aussi, qui lui confère ce caractère magique. et ce dépôt de bitume. D'ailleurs,
c'est drôle quand je vous entends décrire cette image avec le dépôt de bitume, l'aspect vermeil de ceci, le teint. En fait, vous ne décrivez pas du tout l'image. Vous ne décrivez que la matière de l'image.
Mais
c'est comme dans votre travail.
Mais je crois que
Michel Poivet.
La description qu'en fait Davalouche est très intéressante parce qu'il décrit pas une image, justement, comme vous dites. C'est pas une image.
C'est pas une image. Oui.
C'est pas une image.
Et d'ailleurs, c'est vous savez, la durée du temps de pause était telle qu'avec l'effet de la rotation du soleil, on a des aberrations d'éclairage sur l'image.
Parce que les bâtiments sont éclairés des deux côtés.
Voilà, à cause du soleil.
On ne sait plus du tout face à quoi. D'ailleurs, on n'a personne. Enfin, il a fallu quand même un certain temps avant de comprendre qu'il s'agissait d'une basse-cour plutôt que de la propriété du gras. Donc, on ne sait pas. L'image, en fait, en tant que telle, elle ne se décrit pas de façon, narrative.
Ou alors, si, ça peut être une narration, mais alors... Et ça, je pense qu'on peut rester très très près de la réalité en disant que c'est un fabuleux ralenti.
Ah oui, c'est ça.
C'est pas une saisie instantanée comme notre culture de la photographie le fait. C'est un ralenti, c'est 3 jours dans une image. Et elle s'est fossilisée dans la matière. Donc, et ça, c'est cette interprétation de l'image des origines, notamment des calotypes de Talbot comme des ralentis, c'est vraiment des choses qui ont été pensées par les spécialistes de cette époque. Et moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que c'est du cinéma condensé. C'est du cinéma condensé, et c'est pas très loin quand on se raconte la course du soleil de quelque chose qu'on pourrait voir dans un cinéma expérimental. Donc voilà, je crois que l'archéologie est une chose, la matière joue son rôle, mais le processus a une telle poétique, une telle force que ça nous satisfait finalement.
Alors peut-être avant de revenir sur cette image qui n'en est pas une, ou pas seulement cela, qui est un dépôt de temps, je voudrais quand même que nous écoutions un extrait du livre écrit par le fils de Niépce. On parlait de lui puisque effectivement il a reçu une pension suite à cette invention. Et il s'agit donc de Isidore Niépce qui veut rendre hommage à l'invention de son père et qui fut minimisé, pense-t-il, et vous le rappeliez tout à l'heure, par la célébrité de Daguerre.
Historique de la découverte improprement nommée daguerréotype, précédé d'une notice sur son véritable inventeur, feu Monsieur Joseph Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône. Par son fils, Isidore Niépce, 1841. 2 ans se sont déjà écoulés depuis la publication de cette importante découverte qui a excité à un haut degré l'enthousiasme des savants et des gens du monde. L'admiration qui accueillit les premiers résultats présentés par M. Daguerre, l'auréole de gloire dont on a bénévolement orné son front, ces hommages prématurés rendus à un homme dont on a ainsi exalté l'orgueil et la vanité, avaient indigné une foule de personnes honorables qui, connaissant depuis nombre d'années les travaux de M. Joseph Nicéphore Niépce, voulaient faire justice du machiavélisme qui enlevait à un concitoyen, à un ami, à un parent, l'honneur qu'il s'était acquis pendant 20 ans de recherches pénibles et assidues. Ce ne fut qu'à ma prière qu'elles consentirent à ne pas faire retentir la presse de leurs réclamations. Je promis de remplir moi-même cette tâche dès qu'il n'existerait plus aucun rapport entre M. Daguerre et moi. Je dois donc aujourd'hui tenir ma promesse. Je le dois, par respect pour la mémoire de mon père, et par égard pour le touchant intérêt qu'on lui a témoigné. Loin de moi la pensée de vouloir attaquer le génie de M. Daguerre. En cela seulement, je reconnais n'avoir pas fait erreur dans l'idée avantageuse que j'avais conçue de lui. Lorsque M. Daguerre eut la prétention ridicule et déloyale de substituer dans l'acte d'association son nom à celui de M. Niépce, malgré l'article 1er du dit acte, je fis tous mes efforts pour m'opposer à cette usurpation, mais je fus contraint de céder par des motifs que j'exposerai plus loin. En protestant contre cette violation des droits de mon père, je donnai ma parole que j'emploierai tous les moyens légaux pour lui faire rendre la justice qui lui est due. Pardonnez-moi, monsieur Daguerre, si je révèle des faits qui, pour votre honneur, auraient dû rester dans l'oubli, mais j'ai pris l'engagement de dire toute la vérité. Et quoique tardive, elle n'en sera que plus accablante pour vous. En effet, si j'eusse publié lors de votre triomphe ce que j'ose écrire aujourd'hui, on n'eût pas manqué d'accuser ma témérité, ma jalousie même, ainsi qu'on n'a pas craint de l'insinuer lors de votre procès en police correctionnelle auquel j'étais heureusement étranger. Isidore Niepce, 1841.
Michel Poivert, avant d'écouter cette lettre virulente du fils Niepce qui essaye de défendre l'honneur et l'invention de son père, nous étions sur des aspects esthétiques. Et c'est évidemment une évidence, mais ou sinon une évidence peut-être un cliché. C'est le cas de le dire, c'est difficile à employer. C'est une fenêtre à nouveau d'Alberti à Matisse. On n'arrête pas.
Oui, alors c'est vrai qu'on peut tout à fait voir cette première image comme un héritage direct de la représentation classique depuis la Renaissance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est la machine. Oublions le résultat et regardons la machine. La modernisation de la chambre, à partir du XVIIIe siècle, on fait une chambre portative pour paysage. Donc ça veut dire que finalement, représenter un paysage avec une chambre, c'est un usage classique du paysage moderne.
Quand on verra d'ailleurs les premières chambres d'Eastman, de Kodak en fait, c'est exactement les mêmes que celles de Daguerre, avec un petit tube qu'on peut avancer, reculer, la même forme, le même cube.
C'est cette idée de la boîte qui va finalement, avec une optique, la plupart du temps, fût-elle frustre, produire une représentation conventionnelle de l'espace. Et ça, c'est très intéressant. Si on met de côté l'ambition du multiple, mais la question de la vision, on a aux origines de la photographie, quelque chose qui est un pur héritage d'Alberti. C'est-à-dire, et on va le naturaliser, je vais en dire un mot tout à l'heure, c'est-à-dire regarder le monde avec une machine selon des normes que l'on a totalement intégrées déjà depuis plusieurs siècles. Ce qui fait, on pourrait dire que dès les origines de la photographie, on a naturaliser l'image photographique. L'image photographique, on le sait tous, quels qu'en soient les mécanismes ou les optiques, n'a rien à voir avec ce que nous percevons avec notre œil. Les optiques sont corrigées, la boîte est normative, etc. Bon. Mais
Elle est monoculaire.
Et ce qui est fabuleux, moi je crois qu'on a un certain nombre à dialoguer sur cette question aujourd'hui. Je crois que le grand défi des théories de l'image aujourd'hui, c'est comprendre comment on a naturalisé la photo. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a naturalisé la photo alors qu'il n'y a rien.
Quand vous dites naturaliser, vous voulez dire que cette convention nous est devenue naturelle.
Absolument.
Qu'elle pourrait.
On a l'impression qu'une photo, c'est le réel. Et j'allais dire, moi j'y tiens beaucoup. À cette croyance pure. C'est peut-être la dernière qui nous reste. On croit à la réalité de la photographie. Pendant très longtemps, j'ai fait partie de ceux qui voulaient déconstruire ces croyances. Aujourd'hui, j'y tiens beaucoup parce que je me dis qu'on a connu un processus de naturalisation fabuleux. On croit encore un petit peu à quelque chose. La photo.
De Valouche, vous croyez?
Je crois aux images de Niepce, oui, absolument.
J'avais une question que je voulais vous poser, justement, de Valouche. Finalement, il y a eu cette hésitation, cette lutte entre le papier et l'argent. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que je mets une plaque de verre ou une plaque de métal ou une plaque de papier, si j'ose dire, au fond de ma caméra Oscura?
C'était toujours dans cette course, justement, de réduction des temps de pause. L'argent a été utilisé pour sa capacité à réfléchir la lumière, à réduire le temps de pause, et aussi avec la découverte de ces fameux iodures d'argent que Niepce classait dans les oxydes d'argent. Donc en fait, finalement, l'image sur l'argent, elle se produit par noircissement. C'est ça qui m'intéresse aussi.
Parce qu'on pourrait penser que c'est le contraire, c'est que l'argent vient là pour amener la lumière ou la conserver, et c'est l'obscurité qui apparaît.
Sur un tirage papier traditionnel, c'est également ce qui se passe, c'est-à-dire que les sels d'argent vont noircir. Donc, et sur l'argent, c'est l'argent lui-même qui noircit. En fait, qui s'oxyde par endroits. C'est une amorce d'oxydation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est au moment de la collaboration entre Niepce et Daguerre, leurs travaux sur le résidu de la distillation de l'essence de lavande, donc ces travaux autour du physiototype, ils les font sur argent, justement pour réduire le temps de pause. On ne saura rien du physiototype avant la publication de Daguerre en 1939 de son traité sur le daguerréotype. Donc en fait, tous ces travaux qui ont conduit à l'essor de la photographie jusqu'au daguerréotype, Voilà, puisque seront maintenus secrets par Daguerre pendant presque 10 ans, un peu moins de 10 ans. Et,
vous vouliez dire 1839.
1839, oui. et du coup, voilà, et c'est peut-être aussi, on écoutait Isidore Niepce tout à l'heure, c'est peut-être aussi une des raisons de l'énervement et de la colère d'Isidore Niepce, en fait,
le fils.
À l'égard, le fils à l'égard
De Daguerre.
Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on a deux personnalités très différentes. Daguerre, lui, je pense qu'il est vraiment à classer parmi les obsessionnels. Il lâchera pas la plaque d'argent de 1931 jusqu'à la découverte du daguerréotype. Pendant 10 ans, il va s'obstiner et toutes ses expériences, elles tourneront autour de l'iodure d'argent et autour de des vapeurs d'iode, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Alors que Niepce, lui, c'est vraiment un intuitif. Ça lui pose aucun problème de passer d'une expérience à l'autre, d'interrompre ses recherches quand elles lui semblent inintéressantes. Donc, c'est deux façons de travailler complètement différentes, en fait.
Et alors, Michel Poivert, il y a en même temps donc Bayard et Talbot. Quelles sont les différences ou techniques ou d'inspiration chez eux?
Moi, je veux dire qu'il y a une proximité, en réalité, par rapport à ce qu'on vient de dire, entre Daguerre, Talbot en Angleterre et Bayard en France, c'est la chimie argentique. C'est-à-dire qu'ils vont mettre sur les rails de l'histoire le fait qu'une photographie, c'est de l'argent. Enfin, si je puis dire, c'est fait avec de l'argent. Bien qu'il y ait une autre école, j'y reviendrai dans un instant. Mais ce qui les distingue fondamentalement, c'est multiple. Et le support, pour l'anglais Talbot et le français Bayard, c'est le papier. Pour Daguerre, c'est la plaque, c'est-à-dire que c'est un objet, c'est lourd dans la main, c'est précieux, c'est cher, c'est rare, et c'est minutieux. Alors qu'avec le papier, c'est multiple, c'est très doux au regard, c'est plutôt comparé avec le dessin de maître d'ailleurs, et on est dans une autre économie. Mais d'un mot, pour revenir à Niepce, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on a un peu oublié que sa conception de l'image sur bitume, c'est-à-dire c'est une peau, c'est une peau, est quelque chose qui a connu toute une histoire. Il n'y a pas que la photographie argentique. Au 19e siècle, il y a un monsieur très important qui s'appelle Poitevin, qui invente les procédés avec des colloïdes. La gomme mélangée à du bichromate, c'est comme de l'argent, ça prend la lumière et ça sèche. Mais c'est comme le bitume de Judée, une fois que c'est sec, on dépouille l'image. C'est-à-dire la peau, on la dépouille exactement comme le point de vue du gras. On enlève, on nettoie la plaque, tout ce qui n'a pas pris la lumière se dissout, tout ce qui a pris la lumière est solide comme du béton, si je puis dire.
Mais c'est la tradition des eaux fortes aussi.
D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire qu'on a une histoire de la photographie qui est une histoire de ces images qui ont une peau, et puis il y a les images qui ont plutôt une teinte. Et c'est très différent.
C'est extraordinaire comme l'histoire de la photographie qui donne des images si immatérielles, soit si matérielles dans son processus. Absolument. Incroyablement matérielles, au fond. Hein. Voilà. Vous êtes venu du dessin, à l'origine, d'Ovalouche? Ou est-ce que vous êtes venu de la photographie? Quelle est l'origine?
Du dessin, mais...
Et comment l'avez-vous rejoint, cette photographie?
Un peu comme Niepce et la chambre obscure, hein, puisque la chambre obscure était justement un outil de dessin, avant d'être de devenir ce qu'elle est devenue, un appareil photographique. Donc c'est vraiment, je pense que justement, remonter à l'origine de cette image, c'est trouver un point de jonction entre le dessin et la photographie.
Oui. Alors je ne résiste pas à citer une phrase sur votre travail d'Éric de Chassay que je trouve très belle, dans laquelle il dit que votre rapport au monde, où domine celui de l'obsolescence et de la disparition, est non pas ce rapport au monde, c'est non pas sur un versant tragique ou dramatique que vous le cultivez, mais sous un aspect élégiaque, celui qui permet d'en faire un chant. Vous chantez cette obsolescence comme ça des choses et du monde. Merci infiniment de Valouche pour vos commentaires. Merci Michel Poivert. Je rappelle que vous préparez un beau livre chez Azan sur l'histoire de la photographie.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons regardé une œuvre, une image de Nicéphore Niepce,
le point de vue du gras, qui serait la première photographie ou héliographie prise en 1826 et aujourd'hui conservée à l'Université du Texas à Austin. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attachée d'émission, Brigitte Masson, je pense à vous. Merci Brigitte pour votre travail. Vous nous quittez, vous partez à la retraite et ça a été formidable de travailler avec vous. Lecture des textes, Éric Herson-Macarel. À la technique, Pierre Mine. Réalisation, Franck Lilin. Merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.
Before you go back, go until you come, babe. Come until you go back. To go.